Europe 1, Julien Pierce.
Quels enseignements tirer de ce deuxième tour des municipales? Pour en parler, Julien, votre invité, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA.
Bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Tours, Besançon et peut-être même Marseille. Cette vague verte impressionnante, vous l'aviez vu venir avec cette ampleur?
Non, sans doute pas à ce point. Sans doute pas à ce point parce qu'on l'a bien vu pendant toute la durée de la campagne, cette campagne très étrange finalement, mais en tout cas le temps qu'elle a pu durer au sortir du confinement, on avait vu qu'il y avait deux éléments qui s'opposaient. Vous aviez d'une part effectivement ce mouvement, cette volonté de pouvoir confirmer des éléments vus au premier tour, un mouvement plutôt pro-écolo, le fait de pouvoir repenser un peu la façon de vivre, y compris au niveau local. Et puis vous aviez en face aussi un certain nombre de personnes qui mettaient en avant le fait que nous allions au-devant d'une crise écologique certes, mais aussi économique et social. Et là, vous aviez des Français qui expliquaient que pour ça, on a peut-être besoin d'avoir des gens plus expérimentés, qui seront là pour préserver l'emploi, qui seront là pour essayer de préserver notre économie, nos entreprises locales. Et ces deux éléments-là s'opposaient. Ce matin, vous venez de citer la litanie un peu douloureuse pour certains de ces villes qui basculent du côté vert et rose. Eh bien, très clairement, ceux qui sont venus voter, et c'est un point sur lequel on reviendra peut-être, mais ceux qui sont venus voter, ont choisi de favoriser plutôt cette tendance-là. Mais ceux qui sont venus voter à ce second tour des élections municipales, ça n'est pas l'ensemble du corps électoral.
Est-ce qu'il n'y a pas deux France ? La France des grandes villes, celle qui vote désormais écolo, et la France des petites villes, des villes moyennes, voire des villages, qui, elles, votent plutôt à droite ?
Alors, vous avez raison de mettre ce point-là en avant, parce que, d'abord, il faut se souvenir que hier, ce sont effectivement uniquement les Français qui étaient appelés au second tour et ça ne concernait qu'un tiers des électeurs. Donc ça n'est qu'une partie relativement réduite de Français qui étaient concernés. Ceux qui avaient voté au premier tour, la plupart du temps, ont choisi assez directement et de manière assez évidente de reproduire le paysage politique tel qu'il existait. Alors bien sûr, il y a des petits mouvements, mais on a bien vu. Le résultat du premier tour, c'est la droite continue à être implantée en France, c'est le Parti Socialiste n'est pas si dégradé que cela lorsqu'on parle du niveau local, La République En Marche ne parvient pas du tout à s'implanter à ce niveau local, et le Rassemblement National a du mal à trouver des implantations. Et il faut attendre le second tour pour avoir des confirmations, qu'on a eues hier avec notamment Perpignan. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette différence-là. Ceux qui ont voté, encore une fois, sont plutôt aujourd'hui porteurs de, sur ces villes plus importantes, de quelque chose qui est une volonté de mettre en avant au niveau municipal, et c'est très intéressant parce qu'ils l'ont dit une première fois au niveau européen, maintenant au niveau municipal, cette mise en œuvre d'un nouveau mouvement écolo. Je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que l'ensemble des Français, toutes les enquêtes le disent, l'ensemble des Français sont aujourd'hui portés par l'envie que des choses changent d'un point de vue écologique.
Que ça avance, oui.
Que ça avance. Mais les modes opératoire, la façon dont ça va se passer. Là, pour le coup, les choses sont vues de manière différente par les uns et par les autres. Et c'est vrai qu'il y a un peu une bulle un peu particulière. Ça n'est pas qu'en France. En Europe, c'est pareil. Regardez à Londres, regardez dans les grandes capitales, qui dit les grandes villes ont une manière de voir l'écologie. Et sans doute, ce qui n'est pas les grandes villes, les villes moyennes, les villes plus petites, peut-être même la campagne, il y a une manière différente de la voir ou de la voir se mettre en œuvre.
Comment expliquer cet échec cuisant de La République En Marche, LREM, qui a reverdit un petit peu son image ces dernières semaines, mais ça n'a pas marché?
Non, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard ou c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tard parce que c'est vrai qu'on ne se reverdit pas comme ça en quelques semaines. C'est beaucoup trop tôt parce que ça dit le manque d'implantation. Vous ne réussissez pas à avoir effectivement suffisamment d'élus, de représentants dans ces 36 000 communes de France pour exprimer quelque chose. Alors vous pouvez avoir des symboles et ils espéraient avoir un symbole. Paris était le premier symbole. Ça aurait été l'arbre énorme qui aurait caché la toute petite forêt parce que derrière il n'y avait pas la capacité à pouvoir faire des résultats très importants. Cet arbre-là a été abattu assez vite, effectivement une fois, puis une deuxième fois. Donc c'est très compliqué. Il sera en revanche quelque chose que justement La République En Marche, le président, le Premier ministre, devront prendre en compte à partir de demain, à partir d'après-demain ou dès aujourd'hui.
Est-ce que la victoire d'Édouard Philippe au Havre et cette vague verte changent la donne pour le remaniement qui est annoncé ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça change la donne, parce que je pense que tout le monde s'attendait à ce que Édouard Philippe soit élu. Alors, il est très bien élu, c'est vrai. Je pense qu'au niveau national, dans le rapport avec le président de la République, dans la recomposition d'un éventuel gouvernement et le choix d'un nouveau Premier ministre, c'est bien sûr beaucoup plus la façon dont il a géré la crise du Covid, dont les Français lui ont été, on va dire, redevables pour une partie non négligeable d'entre eux, parce qu'il a une cote de popularité qui est intéressante, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais plus de 50% pour un homme politique et un Premier ministre aujourd'hui, c'est un score intéressant. Il a aujourd'hui une double caractéristique très intéressante. Il a d'une part un écart relativement important avec le président de la République, 16 points d'écart, c'est une première caractéristique, et il a un niveau élevé. Il est arrivé depuis 1981 que des Premiers ministres aient l'un ou l'autre, lui a les deux, un niveau élevé, un écart important. Et je vous rappelle une chose, tous les Premiers ministres qui avaient soit un niveau de popularité important au moment où ils ont quitté Matignon, soit un écart important avec le président de la République, ont tous été candidats à la présidentielle ensuite.
Au final, on a d'un côté le Nouveau Monde, En Marche, le Rassemblement National, qui existe sur le plan national, mais n'y arrive pas localement. Et de l'autre côté, un ancien monde, le Parti Socialiste, les Républicains, où c'est tout l'inverse. Et au milieu, on l'a découvert hier soir, les écologistes. Quel avenir sur le plan national pour eux ?
Alors, c'est une vraie question importante, parce que si l'on prend les deux derniers scrutins nationaux ou locaux en France, les élections européennes et ces élections municipales, celles d'hier, elles ont deux caractéristiques communes. Une participation faible et des écolos qui sont forts. De là à poser la question, et il faut la poser, avec une élection présidentielle, avec un niveau de participation dont on peut espérer malgré tout, parce que on continue à voter à une élection présidentielle, autour de 75-80%, on est dans un jeu complètement différent. Donc est-ce que ça veut dire que les écologistes seraient capables, au-delà de l'Europe, c'est le niveau parfait pour d'action pour les écologistes. C'est-à-dire on a l'impression qu'ils peuvent s'entendre au niveau européen, etc. Le niveau local, ça ressemble aussi aujourd'hui à un autre niveau parfait. Est-ce qu'on peut trouver ce niveau moyen, c'est-à-dire le niveau national, avec une capacité à mobiliser plus d'électeurs, en millions d'électeurs, parce que là on parle de millions d'électeurs qui doivent se rendre effectivement aux urnes, c'est encore une question qui se pose. Ça n'a pas, encore une fois, jusqu'à présent, été une capacité qu'ont eu les écologistes.
Pour conclure, cette abstention record, près de 60%, elle était prévisible ?
Elle a été prévue en tout cas par les sondages, par les instituts de sondage, qui semblaient dire qu'effectivement, compte tenu de la distance entre les deux tours, le désintérêt relatif dans un certain nombre de communes qui n'a pas amené de vraie motivation pour les électeurs au fait de trouver, tiens, il y a de l'enjeu, etc., est-ce qu'on peut y aller ?
Pas de vraie campagne ?
Pas de vraie campagne, effectivement, et là c'est intéressant parce que ça dit aussi le rôle d'une campagne. On n'arrête pas de dire que les Français n'ont pas envie de voir de campagne. Lorsqu'il n'y en a pas, pour le coup, ils ne viennent pas voter. Et puis je pense qu'il y a aussi un effet psychologique lorsque vous n'avez pas été voté au premier tour, vous dire je vais aller participer à un jeu auquel je n'ai pas voté pour changer la donne, pour essayer de faire bouger les choses, c'est compliqué. Est-ce que cela va se reproduire ? Bien sûr, on peut espérer que non, mais on ne peut pas encore tirer d'une règle, d'une mesure comme celle de hier soir.
Merci beaucoup Édouard Le Cerf d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ces résultats du second tour des municipales. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de BVA, du groupe BVA. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Bonne journée à vous.